Le gaspillage vestimentaire.
Savez-vous que 80 milliards de nos vêtements sont fabriqués chaque année dans le monde, soit environ 9 vêtements par habitant?
700 000 tonnes de vêtements sont consommées en France chaque année. Un Français achète environ 12 kilos de vêtements chaque année et en même temps, il en jette autant.
Or, pour fabriquer tous ces vêtements, il faut de l'eau, des matières premières
comme du coton, de la laine, du lin et des produits chimiques.
Puis, une fois fabriqués, il faut transporter ces vêtements. Toutes ces étapes entraînent différentes pollutions.
70% des cours d'eau en Chine sont pollués à cause des industries textiles.
D'abord, pour produire du coton, il faut de grands espaces de culture et beaucoup d'eau pour arroser les plantes de coton. Puis des pesticides pour éliminer tous les parasites et avoir des fleurs blanches. Ensuite, il faut du pétrole pour alimenter les machines. Et enfin, il faut des produits chimiques pour peindre les vêtements et encore de l'eau pour les laver.
Après avoir produit le coton, il y a le transport maritime vers la Chine où sont fabriqués la plupart de nos vêtements. Puis il y a le transport routier vers l'usine et qui dit transport routier dit pétrole. L'usine a aussi besoin d'énergie pour fabriquer les vêtements.
Et pour finir, il y a le transport maritime vers la France, puis le transport routier vers les magasins. C'est donc beaucoup de pétrole.
Notre t-shirt fait le tour du monde et a donc une empreinte écologique importante.
Quelles conséquences ont les produits chimiques sur notre santé?
La baisse de la fertilité ou perturbateurs endocriniens, et plein d'autres trucs sympathiques comme les allergies, l'asthme et les irritations.
Et ne pas oublier le cancer des organes internes, mais aussi l'atteinte du cerveau.
Qui est touché et concerné par ces effets négatifs de cette pollution?
Les travailleurs dans les ports.
Les travailleurs dans les usines.
Nous, les consommateurs.
Et enfin, l'environnement, l'eau surtout.
Quelles sont les solutions?
On peut recycler nos vêtements, les troquer, les donner dans des magasins d'occasion, Croix-Rouge, Secours Populaire, Triporteur.
Sur des sites web comme Vinted ou des bourses aux vêtements.
80% de nos vêtements dorment dans nos placards. Et pourtant, comme nous venons de le démontrer, la fabrication a un coût pour la planète. Posons-nous la question de consommer différemment et de l'impact que cela peut avoir.
L'océan va mal. En effet, depuis janvier 2019, plus de 400 enfants morts ont échoué sur les côtes de l'Atlantique. La surpêche a détruit presque un tiers de 600 espèces pêchées dans le monde. La pêche électrique détruit les fonds marins. Aujourd'hui, dans ce reportage, nous allons vous parler de tous ces sujets.
Depuis le début de l'année 2019, plus de 400 dauphins ont été retrouvés sur nos côtes françaises. La cause de ces morts est des politiques qui pêchent toutes sortes de poissons et même des dauphins. Les pêcheurs sont donc à partie responsables de la mort des dauphins. Ils pourraient équiper leur bateau de sonars pour alerter les dauphins. Mais pour certains pêcheurs, cela est trop cher.
Sinon.
Certains marins aux Pays-Bas utilisent des chaluts électriques.
Un chalut électrique est plus léger que le chalut conventionnel. Ils peuvent opérer des zones qui leur étaient jusqu'ici inaccessibles, plus proches des côtes. Or, ces espaces sont souvent des zones de reproduction ou de nourricerie pour de nombreuses espèces marines. Les conséquences. Et ils pêchent tout, et ce qu'ils ne veulent pas, ils les rejettent à la mer morte. Et à cause de ça, des espèces sont en voie de disparition. La pêche électrique sera totalement interdite dans l'Union européenne à partir de juillet 2021. C'est l'acte final d'une bataille de longue haleine. Entre les partisans de la pêche électrique et ses opposants autour de cette technique de pêche qui fut un temps interdite car considérée comme cruelle et dangereuse.
La pêche électrique n'est pas le seul responsable de la diminution des poissons dans les océans. 171 millions de tonnes de poissons sont pêchées chaque année. Un tiers des 600 espèces pêchées dans le monde sont en voie de disparition totale. Qu'est-ce que la surpêche?
La surpêche qualifie l'activité de pêche lorsque celle-ci menace le renouvellement des ressources marines. Si l'homme attrape plus de poissons ou tout autre organisme marin qui ne le doit, l'écosystème ne peut pas se renouveler. Souvent, la surpêche entraîne la prise des bébés poissons qui n'ont pas eu le temps de grandir suffisamment pour se reproduire et conduit donc à long terme à la pénurie d'une espèce. La surpêche a déjà entraîné l'effondrement de plusieurs espèces, comme le cabillaud et la morue au Canada. D'après la FAO, 7 des 10 plus importantes espèces de poissons sont au bord du dépeuplement total.
Qui est le coupable de cette surpêche?
Les coupables de cette surpêche sont surtout les pêcheurs et les consommateurs, donc nous.
Quels sont les poissons menacés? Ce sont surtout ceux qu'on connaît.
Le thon rouge de Méditerranée, les captures ont diminué de moitié en Méditerranée. Poids minimal de capture de 30 kg, on craint qu'au rythme actuel, l'espèce sera quasiment disparue d'ici 2 à 3 ans. Le lieu, Colin d'Alaska, pêché en Pacifique Nord. Le merlu, aussi appelé Colin, a vu le nombre de poissons géniteurs divisé par 2 en 20 ans.
Le cabillaud, stocké, divisé par 5 en 20 ans. Surtout en Europe, en voie de disparition. La dorade rose a disparu, ou presque, du golfe de Gascogne. L'espadon, très menacé. Le saumon sauvage atlantique, ce poisson deux fois moins nombreux qu'il y a 20 ans, ne se reproduit plus dans 15% des rivières où on le voyait habituellement, taille minimum de capture, 50 cm. Le thon rouge, ce poisson pourrait bientôt disparaître de la mer Méditerranée. Si on veut continuer à manger du poisson, il va falloir faire attention à leur survie.
Les arbres sont le poumon de la terre. C'est grâce à eux que nous respirons. Et pourtant, en raison de la déforestation, chaque minute, une surface de forêt équivalente à 4 terrains de football disparaît. Chaque année, c'est l'équivalent d'un quart de la France qui disparaît sur Terre. Mais la forêt est-elle réellement en danger? C'est ce que nous allons voir dans ce reportage. Qui sont les responsables?
Cette déforestation impacte notre terre. Elle détruit la biodiversité en s'attaquant à la faune, la flore et aussi les autochtones des forêts primaires, l'Amazonie, en Afrique équatoriale et en Indonésie. Mais elle nous touche également, nous, les citoyens, en détruisant l'équilibre de la terre. Cette déforestation existe à cause de nous, consommateurs. Les grandes entreprises coupent tous les arbres sur leur passage. Pour produire encore et encore, ces entreprises ne soucient pas une seule seconde des dégâts qu'elles peuvent provoquer et surtout des conséquences pour notre planète.
Le palmier à huile est l'un des arbres les plus exploités au monde. Les entreprises vont même jusqu'à couper des forêts équatoriales pour replanter cet arbre, dont l'utilisation est uniquement commerciale. Son huile sert principalement à créer de la pâte à tartiner, mais pas que. Des biscuits, des bonbons, des glaces, des cosmétiques comme des rouges à lèvres, des gels douche, du dentifrice, mais aussi le biocarburant, qui, à l'inverse de ce que nous pensons, est encore plus polluant que les autres.
Quelles sont les conséquences ?
Les entreprises ont différentes méthodes de déforestation. L'une d'entre elles consiste à brûler les forêts. La fumée produite par ces feux dégage énormément de CO2, ce qui aggrave le réchauffement climatique.
Y a-t-il vraiment une déforestation sur notre planète ?
Eh bien non. Malgré cette déforestation, la surface mondiale de la forêt est stable depuis 1990. Il y aurait donc autant d'arbres sur la planète, avec certains endroits où on coupe des arbres et d'autres où l'on en replante. Le problème, c'est la disparition des forêts primaires. Elles sont les plus importantes pour la richesse de la biodiversité.
Sur ce, nous vous laissons avec un reportage sur la biodiversité, présenté par Alexis, Morgane et Gladys.
Le tarpan, une espèce de cheval. Le thylacine, marsupial de la taille d'un loup. Le caga, mi-zèbre, mi-cheval. La rougette, une espèce de chauve-souris. L'uyadimor, un oiseau avec un grand bec. Vous ne les connaissez pas? C'est normal, ils ont disparu. Et ça, c'est à cause de l'homme. Chaque année, des espèces animales et végétales disparaissent de la surface du globe. En effet, depuis 1970, la planète a perdu 60% de population d'animaux sauvages. 1 million d'espèces animales et végétales risquent de disparaître très bientôt de la surface de la Terre, ou du fond des océans. Or, la biodiversité est indispensable à la survie des hommes. C'est la façon dont plusieurs espèces, micro-organismes, plantes, champignons ou animaux cohabitent dans la nature.
Pourquoi la biodiversité est menacée ?
Ce sont surtout les activités humaines qui sont responsables de la disparition des animaux et des végétaux. L'homme modifie la nature et malheureusement détruit la biodiversité. Par exemple, trop de lumière artificielle, des villes éclairées la nuit, détruisent les insectes nocturnes. Sinon, certains agriculteurs ou jardiniers arrosent leurs plantations de pesticides pour tuer des insectes indésirables. Mais ils tuent aussi des espèces utiles à la nature, dont une très importante, l'abeille. Morgane va nous en dire plus.
Comme l'a dit Albert Einstein, si les abeilles disparaissaient de la surface du globe, il n'en resterait plus que 4 ans à l'homme. Plus d'abeilles, plus de pollinisation, plus de plantes, plus d'animaux, plus d'hommes.
Les abeilles sont-elles vraiment en voie de disparition ?
Le 30 septembre dernier, les abeilles ont été classées en voie de disparition. En France, près de 3 colonies sur 10 disparaissent. Si les abeilles venaient à ne plus exister, alors les conséquences seraient terribles, jusqu'à menacer la survie de l'humanité. Heureusement, les ruches réintègrent nos villes, sur les toits des immeubles, loin des pesticides de nos campagnes. On les appelle les ruches urbaines.
Sont-elles importantes à notre survie ?
Les abeilles sont très importantes à notre survie, car leur présence nous est indispensable à la production de miel et d'autres produits de l'apiculture, mais surtout à la pollinisation et donc aussi à l'agriculture.
Les abeilles ont-elles donc un rôle important dans la biodiversité ?
Les abeilles sont les acteurs de la biodiversité. La plus grande majorité des espèces de plantes à fleurs ne produisent des graines que si des animaux pollinisateurs transportent du pollen des anthères aux stigmates des fleurs. Sans elles, plus de fleurs, plus de fruits, plus de nouvelles plantes. Quelle tristesse ! Alors mettons tout en œuvre pour les sauvegarder.
Après les abeilles, d'autres espèces sont en danger. Actuellement, un mammifère sur 4 et une espèce d'oiseau sur 8 disparaissent chaque année. Mais on peut encore réagir, comme va nous le montrer Gladys dans son reportage consacré aux loups.
Les loups sont très importants dans l'imaginaire collectif. Cela se constate notamment par des films comme en 1990, Danse avec les loups, ou plus récemment la saga Twilight. Depuis 2011, Netflix diffuse également la série Teen Wolf, dont l'intrigue est construite autour de l'histoire d'un lycéen qui se fait mordre par un loup-garou et doit ensuite se constituer une meute. Au Moyen-Âge, le loup était très répandu dans tout l'hémisphère nord. Leur nombre a été réduit dans la seconde partie du 19e siècle. On peut même parler d'extermination.
Et maintenant, où en est la situation du loup ?
En 1990, la signature de la Convention de Berne concrétise l'appartenance du loup au statut d'espèce protégée. Mais le conflit homme-loup continue de peser sur la survie de l'espèce. En 1992, on réentend le hurlement du loup dans les Alpes-Maritimes. Certains parlent d'une réintroduction par le gouvernement et d'autres d'un retour naturel. Peu importe la raison de ce retour, il est positif car le loup a un impact important sur l'environnement.
Mais quel impact important a-t-il sur l'environnement ?
Il disperse les onglets, les cerfs, les biches. Ces animaux ont tendance à surconsommer certaines espèces d'arbres. Aussi, le loup stabilise les populations de cervidés qui mangent les jeunes pousses et arbustes.
Mais pour se nourrir, le loup tue les troupeaux.
Le loup adapte son alimentation aux proies disponibles. Quand il n'arrive pas à se nourrir de proies sauvages, il peut alors s'en prendre aux moutons, par exemple. C'est la source du conflit homme-loup. À cause de ce conflit, les loups ont même développé une peur des humains provoquée par les chasseurs et les bergers.
La biodiversité est bien en danger, mais on peut encore réagir.
La marche pour le climat. Depuis le 29 août 2018, les jeunes Européens se mobilisent pour faire réagir les hommes politiques pour la défense de la terre et du climat.
Un mouvement a commencé en Suède grâce à Greta Thunberg qui a pris conscience des choses et a réussi à mobiliser de nombreux jeunes pour la défense de cette cause.
Qui est Greta Thunberg ? Greta Thunberg, à 16 ans, réagit pour le climat et lance la marche pour le climat. En août 2018, un vendredi, au lieu d'aller en cours, elle va manifester devant le Parlement suédois.
Et depuis, elle s'est fait reconnaître dans le monde entier. Elle va à la rencontre des étudiants qui poursuivent cette action en France, en Allemagne, en Suède, en Belgique et même en Australie.
Les personnes concernées sont surtout les Européens, les lycéens et des étudiants. En Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Suède, en Suisse, mais aussi aux États-Unis et dans plus de 28 pays.
Les étudiants veulent forcer les dirigeants politiques à agir contre le réchauffement climatique pour que la manifestation soit encore plus grande. On en parle à tout le monde via les réseaux sociaux, cela permet de faire connaître les actions.
Parmi les slogans qu'on pouvait voir dans les manifestations,
il n'y a pas de planète B, pas de nature, pas de futur.
Et au lieu de dire en voiture Simone, ils disent en vélo Simone.
Qu'est-ce que cela a concrètement changé ?
Pour le moment, aucun changement ou nouvelle loi de la part des gouvernements. Seulement des annonces comme celle d'Emmanuel Macron, mettre en place un conseil de défense écologique avec 150 membres tirés au sort parmi la population.
La manifestation a permis une prise de conscience chez les jeunes. Ils ont su se mobiliser et se faire entendre. Ces mêmes jeunes qui seront les citoyens de demain. Et vous ?
Que pensez-vous de ces manifestations ?
Voilà, c'était la 5ème A. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine sur les ondes de Radio Gondo.
Radio Gondo !